Triptyque sur le critique, troisième partie, équilibrer notre personnalité et retrouver notre fluidité. Je m'appelle Véronique Brard et j'enseigne le Voss Dialogue. Le Voss Dialogue est un dialogue entre deux personnes, un praticien formé au Voss Dialogue, le facilitateur, et une autre personne, le facilité. Le facilitateur va interviewer une ou plusieurs des voix présentes chez le facilité. Le but est de se désidentifier de ces voix et surtout des énergies auxquelles elles correspondent. Lors de ces interviews, une des voix qui est très souvent présente est celle du critique intérieur. Après vous avoir présenté ce critique, vous avoir parlé de sa musique, des critiques attaques, vous avoir invité à sortir de son champ électromagnétique pour aller dans une énergie opposée, mental objectif, approbateur, parent aimant, enfant lumière. Après vous avoir invité à respirer pour provoquer ce changement d'énergie, je vais vous inviter à le considérer comme un signal. Une sorte de bip, bip, bip qui lui doit attirer notre attention. La présence continue du critique signe une identification. Ses reproches, ses attaques ne sont pas ce qu'il nous faut écouter. Sa présence nous dit que nous sommes identifiés à certaines énergies tandis que d'autres manquent. Rééquilibrer notre personnalité va nous permettre de mettre fin à ces attaques et de lui répondre tranquillement. Nous ne pensons pas comme lui, et cela sans aucune discussion avec lui. Pour commencer, point 1, je vais vous parler du besoin du critique et de sa façon très particulière d'y répondre. Nous l'avons vu, le critique veut que nous soyons aimés, accueillis, acceptés, et pour cela, il veut s'assurer que nous soyons quelqu'un de bien. Il n'est jamais sûr de ce dernier point. Il n'a en fait aucun critère pour en décider, excepté l'approbation ou la désapprobation de notre entourage. Il a dans l'oreille la multitude de reproches venus de notre entourage d'enfance et, pour réussir sa tâche, sa seule et impossible stratégie va être de veiller à ce que toutes les règles de toutes les copersonnalités qu'il juge valides soient respectées. Il a une certitude et une croyance. Si nous respectons toutes ces règles, forcément nous serons heureux. Si nous ne sommes pas heureux, c'est que nous ne respectons pas les règles. C'est aussi simple que cela. Si bien qu'à chaque fois que nous sommes malheureux ou tristes, il vient, avec angoisse et colère, nous rappeler les règles. Étant par nature un protecteur, il arrive pour nous dire ce que nous aurions dû ou devrions faire dès qu'une émotion monte. Il suscite en nous tout un lot d'émotions difficiles, mais il est bon de s'apercevoir aussi que n'importe quelle émotion qu'il désapprouve et juge négative le met aussi en route. Selon lui, si nous l'écoutions, nous ne serions jamais malheureux. C'est là sa plus grande croyance. Nous sommes tristes ou malheureux parce que nous avons fait quelque chose de mal, parce que nous n'avons pas suivi ses directives. Point 2. Nos copersonnalités. Je vais revenir sur ce concept des copersonnalités, ou des énergies, ou des jeux, ou des moi. Toute âme qui prend un corps s'individualise et construit automatiquement une interface avec ce corps, une psyché. Les archétypes contenus dans cette psyché, qui forment cette psyché, sont les mêmes pour tous. C'est à travers ce corps doté d'une psyché que l'âme va pouvoir agir et incarner l'esprit. Notre personnalité est fonction des particularités individuelles de cette psyché et va évoluer avec elle. Or, cette psyché est composée de multiples entités que nous nommons en vos dialogue des copersonnalités. J'emploie aussi le terme énergie, tout simplement. Nous sommes des êtres multidimensionnels à plus d'un titre. Ces copersonnalités sont de trois sortes. Les parties dites primaires, les parties reniées, dévalorisées ou niées, et les parties non développées. Les parties non développées se développeront en temps et en heure. Elles ne nous prennent pas d'énergie et ne posent pas de problème. Les parties que nous nommons primaires sont les parties généralement dominantes de notre personnalité. Celles, si vous voulez, qui conduisent notre voiture psychique, celles que nous valorisons. C'est notre ego automatique fonctionnel. Les parties reniées existent et sont présentes en nous, mais elles sont niées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit à la parole. Elles sont, si vous voulez, pour reprendre l'image de la voiture, remisées dans le coffre de la voiture. Les parties primaires ne les aiment pas, voudraient qu'elles disparaissent et veillent à ce qu'elles ne participent pas à notre personnalité. Cette construction, par contre, nous coûte une grande partie de notre vitalité. Prenons un exemple. Charlotte est née dans une famille où la règle est d'être gentille et de faire attention aux autres. Elle développe en partie primaire une gentille qui sera appréciée de son environnement et qui correspond aux attentes de ses parents. Prêter ses jouets, être disponible, obéir, ne pas déranger, ne pas dire non, ne pas s'opposer aux adultes sont quelques-unes des règles de la famille. Tous les comportements opposés sont considérés comme méchants. Être méchante est extrêmement mal vu. La rébellion est punie d'un retrait complet d'attention et de mise à l'écart. Charlotte n'a pas d'autre choix que de devenir extrêmement gentille et elle le devient. Au fur et à mesure que Charlotte grandit, cette gentille va promouvoir le développement de celle qui prend soin des autres, de la généreuse, de l'altruiste, de celle qui est à l'écoute, de celle qui rend service, etc. Les énergies opposées à ce système, celles qui seraient plus égoïstes, qui ne feraient pas toujours attention aux autres, qui ne les feraient pas toujours passer en premier, celles qui pourraient dire non, bref, les parties davantage tournées vers le bien-être de Charlotte et l'affirmation de soi s'enfoncent peu à peu dans son inconscient. Elles existent, elles continuent d'exister, mais elles sont bannies de sa personnalité. Elles deviennent des énergies reniées et elles se vrillent peu à peu. Elles se déforment, elles perdent leur innocence. Dans cette construction d'un système primaire, le critique va aider Charlotte. Il va intervenir dès qu'elle ne fera pas tout ce qui est demandé. Il va intervenir quand elle ne fera ne serait-ce que penser à ne pas dire oui, à ne pas faire attention aux autres, à s'affirmer ou à se faire passer avant les autres. Il lui dit qu'elle ne peut pas agir ainsi, qu'elle va avoir des ennuis, que ses parents vont la punir. Peu à peu, il va affirmer que se comporter ainsi, et même avoir le désir de se comporter ainsi, c'est être une horrible personne que personne ne pourra jamais aimer. Le critique veille ainsi sur les règles de la gentille. Mais il veille aussi sur les règles de toutes les autres copersonnalités qui se sont développées en lien avec la gentille. Cela fait une sorte de réseau dans lequel Charlotte est tenue étroitement prisonnière. En plus de la généreuse et de ses alliés, Charlotte va développer un mental rationnel, un actif, un perfectionniste, un responsable, une partie ordre et structure pour réussir dans la famille, à l'école et disons dans la culture qui est la sienne. Toutes ces parties forment son système primaire. Toutes ces parties ont des règles. Le critique les prend toutes en considération et veille à ce que toutes soient respectées. Ce n'est pas lui qui les fait. En général, il existe un législateur. Ce n'est pas lui qui donne la direction de la vie. Le plus souvent, un gérant est chargé de ce travail. Mais lui veille à ce qu'elles soient strictement respectées. Le critique protège Charlotte. Il la discipline, la gronde, l'attaque quand c'est nécessaire, lui fait peur lorsqu'elle ne respecte pas les règles mises en place par l'environnement. Que ces règles soient contradictoires ne le dérange pas. Les doubles contraintes non plus. Sa fonction première est de nous critiquer avant que les autres ne le fassent, pour nous protéger. Il voulait épargner aux enfants que nous étions reproches et critiques et le sentiment de honte qui les accompagnait. Il pense encore aujourd'hui qu'il aura réussi sa mission, que nous soyons aimés et heureux, lorsque nous respecterons toutes les règles de notre système primaire. C'est ainsi que le critique est devenu très habile, rapide, vigilant, expert à détecter tout ce qui ne va pas en fonction de ce que voulait ou ne voulait pas notre entourage. Point 3. C'est ainsi que la présence du critique nous indique l'identification à un système primaire. Nous en désidentifier devient alors le défi. Je vais vous donner quelques exemples. Si je me sens mal lorsque mon critique me dit que je suis égoïste, c'est que je suis identifié à la règle « ne pas être égoïste », qui est celle de la partie généreuse. Prendre soin de soi n'est pas valorisé. Nous avons une primaire, la généreuse, et une partie qui manque, l'égoïste. Si je suis complètement détruit lorsque mon critique me dit que je me suis donné en spectacle lors de la dernière fête avec mes amis, c'est que je suis identifié à la règle « se contrôler et ne pas se montrer », qui est la règle d'un contrôleur. Une partie qui valorise la spontanéité et pense qu'elle est normale a été éjectée du système. Si je suis accablé parce que j'ai parlé sans réfléchir, c'est que je suis identifié à la règle « ne pas parler sans réfléchir », qui est aussi celle du contrôleur. Avoir le droit de se tromper, de ne pas être parfait, d'être spontané, comme je le disais dans l'exemple précédent, est une énergie qui reste à conquérir. Le critique nous signale donc une identification à une partie de nous, un rétrécissement par rapport à tout ce que nous pourrions être, et c'est une invitation à nous décaler de ce système primaire et à développer une partie opposée pour rééquilibrer notre personnalité. Le critique est un chien de garde. Il aboie lorsque nous sommes identifiés à un système primaire et que les règles de celui-ci ne sont pas respectées. Sa présence, et non pas ce qu'il dit, peut devenir un signal qui nous aide à sortir de cet ego automatique. Lorsque nous valorisons les deux côtés d'une polarité, nous ne sommes plus déstabilisés par ces critiques. Si nous aimons et approuvons notre généreux sans lui être identifié, nous pouvons répondre aux critiques qu'être généreux est bien, mais qu'être égoïste et prendre soin de soi est aussi normal et nécessaire. Prendre soin des autres est bien, prendre soin de soi est indispensable, car nous sommes vulnérables et avons des limites. Lorsque nous honorons les deux côtés d'une polarité, nous ne sommes plus identifiés au fait d'être et d'agir d'une certaine façon. Du coup, nous ne sommes plus déséquilibrés par les attaques du critique. Prenons un autre exemple. Chacun de nous a un côté plutôt introverti ou plutôt extraverti. Lorsque nous sommes extravertis et que notre critique juge cela dangereux, il essaie de nous contrôler et s'emporte, parfois avec violence, à chaque fois que notre partie plus extravertie échappe à sa surveillance et fait un coup d'État. Lorsque nous devenons plus conscients de notre besoin d'expression spontanée, nous ne nous condamnons plus. L'énergie introvertie et un certain contrôle sont appréciés, mais l'énergie extravertie, la spontanéité, le fait de prendre certains risques, de ne pas toujours réfléchir, l'est aussi. Du coup, aucun critique intérieur ou extérieur ne peut nous déstabiliser très longtemps. Nous retombons sur nos pieds, nous donnons à ces deux côtés le droit d'exister et d'influencer notre comportement. Face aux critiques, se décaler de nos parties primaires pour devenir capable d'embrasser leurs opposés est la meilleure des réponses. Lorsque nous sommes suffisamment décalés d'une primaire, nous continuons d'apprécier sa valeur. Mais nous apprécions aussi la valeur de son ou de ses opposés. Le critique, alors, a beaucoup moins de prise sur nous. Nous ne pouvons plus croire ses arguments et mettons fin sans discussion à ses reproches. Enfin, presque, car cela demande de voir et prendre en compte la vulnérabilité que la partie primaire protège. C'est ce dont va vous parler le point 4, la vulnérabilité sous la primaire. Revenons à Charlotte. Elle arrive à l'âge adulte avec une personnalité chaleureuse, gentille, généreuse, tournée vers les autres, intéressée par la spiritualité, l'amour inconditionnel, etc. Pourtant, son critique ne cesse de s'agiter. Il continue à la surveiller. Il n'est jamais sûr d'elle, il n'est jamais satisfait. Il perçoit ses parties reniées, plus ou moins inconscientes, qui s'agitent sous la surface. Elles veulent être reconnues, avoir une place dans la personnalité de Charlotte. Elles ont des cadeaux à lui amener. Et elles se laissent de moins en moins facilement enterrer. De plus, ce critique retourne facilement sa veste pour lui dire qu'elle ne sait pas s'affirmer, qu'elle n'a pas de caractère, qu'elle se plie toujours à la volonté des autres. Il la compare négativement à toutes sortes de femmes qui, selon lui, ont du caractère et du coup réussissent dans la vie. Pauvre Charlotte. Mais réussir est une règle des primaires. Pour calmer son critique, il va falloir que Charlotte se désidentifie de la gentille. Mais sa petite fille est terrorisée à l'idée de ne pas être gentille. Depuis toujours, ses parents, comme son critique intérieur, lui disent que ne pas être gentille est quelque chose d'horrible, que les conséquences seront dramatiques. Pour nous séparer d'une partie primaire, nous devons aller chercher les peurs de l'enfant vulnérable qui nous enracine dans cette primaire. Nous devons revisiter l'enfance et guérir les blessures et les traumas de l'enfant peur en lui tenant la main. Point 5. Quelles sont ces peurs? La peur de l'abandon, de ne pas être aimé, d'être frappé, battu, méprisé. La peur de la pauvreté, de la maladie, du handicap, de la souffrance, de la mort, de l'enfer, de l'étouffement, etc. Nombre de ces peurs sont liées à des événements du passé ou de ce que l'enfant a vu, perçu et compris de ce passé. Ou encore, de l'histoire que le critique lui raconte à propos de ce passé. L'enfant comme le critique ont peur que le passé douloureux ne revienne. Tous deux forment un sérieux couple en ce qui concerne les peurs. Le critique a toujours peur. Derrière cette voix coupante, tranchante, existe un monde de peur. Chercher quelle est la vulnérabilité ou l'angoisse sous les critiques est ce qui va nous permettre de le rassurer. Ces peurs, celles du critique, sont globalement les mêmes que celles de nos enfants intérieurs. Mais elles ne s'expriment pas de la même façon. Le critique cherche souvent à nous protéger comme si nous avions encore 4 ou 5 ans. C'est un peu comme s'il ne savait pas que nous avons grandi, que nous pouvons assumer le fait de ne pas toujours être aimés de tout le monde et nous devons lui apprendre que la situation présente est différente de celle du passé. Nous ne sommes plus à 100% dépendants de l'attention et de l'amour de nos parents. Et celui qui nous méprise et nous critique aujourd'hui, c'est lui. Point 6. Devenir l'autorité que l'enfant va croire. Une fois devenu conscient des peurs derrière les critiques et des peurs de l'enfant derrière la présence de nos parties primaires, nous pouvons en prendre soin directement et différemment. Nous devons retirer aux critiques son autorité pour devenir la personne en qui l'enfant aura confiance. Pour cela, un lien étroit entre lui et nous et une prise en compte de ses besoins est nécessaire. Point 7. La route à suivre pour Charlotte comme pour nous. Toutes les parties primaires que nous avons développées sont en lien avec le fait de prendre soin des peurs de l'enfant vulnérable. Le gentil, celui qui veut plaire, l'actif, le mental rationnel, le perfectionniste, le travailleur acharné, le sportif, l'artiste, le spirituel, le sauveur, le parent responsable, celui qui sait, tous se sont développés pour rassurer l'enfant, et ceci sous la direction du critique. Garder les copersonnalités qui fonctionnent et réhabiliter celles qui nous manquent est notre travail de conscience. Équilibrer les parties qui ont besoin de reconnaissance avec celles qui n'ont pas besoin de reconnaissance. Équilibrer celles qui aiment prendre soin des autres par celles qui aiment prendre soin de nous. Équilibrer celles qui se dévouent aux autres par l'amour de soi. Tel est notre travail de conscience. Nous n'avons pas à choisir un des côtés de la polarité, mais à l'équilibrer. Souvent, pour trouver ces équilibres, nous devons intégrer des énergies comme celui qui sait poser des limites, l'égoïste, le libre penseur, le rêveur, le léger, le guerrier, l'idiot, la princesse indulgente, l'enfant innocent, celui qui encourage, celui qui aime de façon inconditionnelle, le cool, le sage, le détaché, celui qui n'a pas peur des critiques. Découvrir en nous une partie adulte qui peut supporter la critique sans en mourir nous permet d'avancer. Charlotte peut continuer à valoriser son système primaire qui lui amène beaucoup de talent et elle doit embrasser les copersonnalités opposées, celles qui savent mettre leurs limites, qui savent dire non. Se désidentifier de son système primaire dont la gentille est le leader, réapprivoiser certains de ses opposés, s'élargir, retrouver la totalité de sa palette apaisera son critique intérieur. Décalé de sa gentille et de ses alliés, une fois l'agitation du critique intérieur calmée, elle peut mettre réellement ses enfants intérieurs en sécurité. Elle est quelqu'un de bien lorsqu'elle dit oui. Elle est quelqu'un de bien lorsqu'elle dit non. Ses choix de vie ne sont plus automatiques. Ils se font en fonction de son chemin de vie et de ses possibilités et besoins actuels. Point 8. Une nouvelle sécurité pour l'enfant. Lorsque nous nous réapproprions l'ensemble de nos copersonnalités, nous pouvons beaucoup mieux assurer la sécurité de notre enfant vulnérable et répondre à nos besoins humains. Pour revenir à l'exemple de Charlotte, son enfant sera beaucoup plus en sécurité aujourd'hui si elle garde sa gentille et ses alliés et si elle développe une capacité à mettre ses limites, à dire non et à s'affirmer. Ses qualités sont portées par des copersonnalités très différentes de la gentille. Avec ces dernières, Charlotte a un réel pouvoir, celui de prendre soin d'elle et de s'épanouir. L'âme peut alors s'incarner davantage. Une grande fluidité existe dans cette alliance entre l'âme et l'humain. C'est une complétude qui sert la race humaine. Conclusion. Notre critique a largement participé à notre conditionnement, mais il est intelligent. Il perçoit que nous ne sommes pas en sécurité lorsque nous avons mis toute une partie de nos talents et de nos capacités à la porte. Notre travail de conscience est alors de réhabiliter les parties de nous que nos primaires ont supprimées ou tenté de supprimer. Non pas de les réintroduire sous leur forme déformée, celle que nos parties primaires craignent, mais sous leur forme originale. Ouvrir la porte à l'affirmation de soi ne veut pas dire ouvrir la porte à l'autoritarisme, par exemple. Lorsque nous prenons la responsabilité d'équilibrer notre système primaire, le critique s'apaise et les enfants intérieurs se trouvent beaucoup plus épanouis grâce aux nouveaux talents que nous développons. Ainsi, en ne nous laissant pas intimider par notre critique, en le questionnant, nous prenons conscience des peurs qui nous ont fait renoncer à certains talents que nous avions au départ. Le critique n'est pas une énergie à suivre. Il n'est pas non plus une énergie qu'il est possible de supprimer. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de lui. Nous pouvons apprendre à nous servir du signal qu'il nous donne. Nous sommes identifiés à certaines énergies et d'autres nous manquent pour être efficaces dans la vie. Aujourd'hui, nous avons besoin des cadeaux amenés par toutes nos copersonnalités. Le but du Voice Dialogue est de se décaler de notre système primaire, c'est-à-dire de notre ego fonctionnel automatique. Au final, notre critique, lorsque nous le considérons comme un signal, nous y aide. La race humaine a derrière elle une longue histoire collective de maltraitance inouïe des enfants. Notre histoire personnelle en garde les traces. Devenir conscient de notre enfant négligé ou maltraité permet un changement décisif. Nous pouvons enlever aux critiques la responsabilité de cet enfant. Un enfant vulnérable, méconnu, inconnu, entraîne un critique intérieur sur les dents qui, de plus, déteste cet enfant qu'il voit comme la source de tous nos maux. Le critique fait partie de notre vie. Il est notre compagnon de voyage. Il n'est pas un guide. Il est inutile qu'il soit aux commandes, dirige notre vie et nos opinions sur nous-mêmes ou sur les autres. Se rendre compte de sa présence nous donne la possibilité de sortir de son champ d'attraction. Toute activité corporelle que nous aimons est un bon moyen. Respirer profondément, aller dans la nature est le plus simple. À plus long terme, cela nécessite de guérir les blessures de l'enfant et de ne plus refouler nos émotions. Le critique a certainement été un protecteur. Il nous a permis d'arriver jusqu'ici. Merci à lui. D'autres copersonnalités sont disponibles et certaines peuvent nous reconnecter à notre âme et à notre lumière. Je vous propose de vous féliciter à chaque fois que vous réalisez que vous êtes sous le coup d'une attaque du critique ou qu'il est en train de parler à bas bruit. C'est cette conscience de lui qui va changer notre vie. Acceptez-le. Même les critiques les plus forts et les plus tranchants ont besoin d'un peu d'amour ou de tolérance pour s'apaiser. Faisons la paix avec nos critiques et rassurons-les. Nous savons qui nous sommes, eux ne le savent pas. Nous pouvons avoir confiance en la vie qui nous anime et l'âme qui nous guide. Eux sont prisonniers des blessures de l'enfance et au-delà de l'historique d'une race humaine qui a été séparée de son âme. Ainsi se termine ce triptyque sur le critique intérieur. Je vous souhaite le meilleur, paix, amour et joie. C'était Véronique Brard.